Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer la prédication en vous posant cette question. Vous le savez, poser une question est plus facile que d'y répondre. Qui est l'auteur du livre des Psaumes ? Qui est l'auteur du livre des Psaumes ? Je pense que la plupart d'entre nous allons répondre David. David n'est pas le seul à avoir écrit tous les Psaumes. Certes, il a écrit plus de la moitié de 150 psaumes que constitue ce livre. Mais Moïse, il a écrit au moins un psaume, et Salomon, Ethan, et aussi un autre homme qui s'appelle Asaph. Il a écrit au moins 11 psaumes, et aussi des autres auteurs anonymes. Ils ont écrit ces psaumes que nous avons dans notre Bible. Ce que nous allons voir maintenant, c'est complémentaire de ce que nous avons fait ce matin, c'est-à-dire découvrir la personne de Jésus-Christ à travers de ses chants, ses prières, la lecture que nous avons faite. Et je remercie le Seigneur d'avoir nous conduit pendant ces moments. Et nous allons continuer notre découverte à travers de la Bible. Le livre de Psaumes, on appelle le livre des hymnes d'Israël, a été très ancien temps, divisé en 5 parties. Le psaume 1 à 41 et 42 à 72, 73 à 89, 90 à 106 et 107 à 150. Chaque partie se termine avec une doxologie ou ce qu'on appelle un chant de louange à Dieu. Le mot psaume indique une chanson composée spécialement pour être chanté avec l'accompagnement d'un instrument à cordes. Ainsi, les psaumes sont des chants exprimant les sentiments les plus profonds et les plus élevés des écrivains dans leur culte, la louange et la dépendance à Dieu. En hébreu, ils sont la forme la plus élevée de la poésie, selon la force et la beauté de l'expression et sur le rythme et l'équilibre de la pensée et la forme. Le pouvoir de cette forme de verset est rapporté dans les traductions apparaissant grandement différent de la prose ordinaire. Les écrivains des psaumes sont nombreux en variés et variés, tout comme les écrivains de chants modernes. Les psaumes ont été aimés par Jésus. Son discours montre qu'il les connaissent bien et a précisé leur message. Ses paroles d'agonie sur la croix tombent dans les expressions du psaume 22 qui raconte la souffrance du Messie. Les principales pensées des psaumes sont la confiance en Jésus, en Dieu, la louange à Dieu, se réjouissance de sa bonté, des rappels de sa bonté ou de sa miséricorde, et des supplications ou des remerciements pour sa protection contre les méchants ennemis des justes. Et ce matin, nous allons étudier ensemble le psaume 73. Un psaume très intéressant, comme chacun de ces psaumes d'ailleurs. Comme vous le savez bien, souvent nous étions encouragés par l'étude de psaumes dirigée par le pasteur Timothée Bixby le mardi soir. C'est pourquoi on vous répète d'être là le mardi soir. C'est très très intéressant et l'étude que nous faisons ensemble le mardi soir. Elles sont tellement riches et profondes et leur particularité est que la personne qui les lit peut s'identifier avec l'auteur. Toute écriture est inspirée de Dieu est-il pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Avez-vous remarqué la dernière partie de ce verset? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Après avoir étudié ce psaume ce matin, nous allons certainement changer notre attitude, la façon de voir les choses, notre attitude envers le Seigneur, tourner nos regards vers le Seigneur afin que nous devenions accomplis et propres à toute bonne œuvre. Si nous retournons chez nous tels que nous étions avant d'arriver ici ce matin, sans aucune transformation, nous avons gâché notre temps et notre énergie. Tout ce que nous avons dit et chanté sont comme des cymbales retentissantes et des airains qui résonnent. Et maintenant, tournons nos Bibles dans le livre de Psaume et nous allons lire ensemble Psaume 73. On va lire ensemble le psaume 73, psaume d'Asaph, verset 1. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence et le vêtement qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Verset 9. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voici pourquoi son peuple se tourne de leur côté et avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le trésor connaître-t-il? Ainsi sont des méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur les voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? Et en un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Verset 20. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé, et que je me sentais percé dans les entrailles. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme des bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puisque tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Dans l'introduction, nous avons le nom de son auteur, psaume d'Asaph. Asaph était l'auteur d'au moins 12 psaumes, Asaph. Mais qui est donc ce fameux Asaph, cet auteur mystérieux? Asaph était un des chefs de chorale nommé par David avec Hémon et Étan, et il exerçait son service par le chant devant le tabernacle jusqu'à ce que Salomon eût bâti le temple de l'Éternel à Jérusalem, et il exerçait sa fonction d'après la règle qui lui avait été prescrite. On peut lire dans le livre de 1 Chronique, chapitre 6. Le service de la louange était en effet très réglementé. Le responsable de la musique était musicien et jouait de divers instruments, luth, lyre, harpe, trompette. Asaph jouait de cymbales de bronze comme Hémon et Étan, et probablement de divers autres instruments pour accompagner les chants pour Dieu. Encore en 1 Chronique, chapitre 15, on peut lire sur Asaph. Asaph était aussi prophète comme Étan et Hémon. Il exerçait donc un ministère spirituel, prophétique, afin que les chants soient louanges, mais aussi édification pour le peuple de Dieu. Donc, c'est rare qu'on étudie, à part David, étudie sur un écrivain de ces psaumes. Et seulement sur Asaph, on peut connaître un peu ce qui se passe dans son cœur à travers de cette psaume 73. Et pendant notre première lecture de notre psaume d'Asaph, ce qui nous frappe est l'honnêteté de son auteur. Il dévoile sa vie, la pensée de son cœur, telle qu'elle est. Vous avez vu comment il est sincère quand il dit ce que s'est passé à travers de son esprit. Savez-vous que les chrétiens sont comme des cartes postales que nous recevons de nos amis et la famille qui part en vacances. Des chrétiens cartes postales. Tout est beau, la mer tranquille, reflétant le ciel bleu, la montagne magnifique, des champs fleuris. Ils sont des photos parfaites, bien souvent retouchées pour paraître parfaits. Rien à dire. Un éventuel visiteur va nous trouver tous beaux et parfaits le dimanche matin à l'église. Mais nous savons que ce n'est pas vrai. Nous avons nos luttes et nos fardeaux. Les autres peuvent voir le sourire sur nos lèvres, mais il n'y a que le Seigneur qui voit les larmes de nos cœurs. Mais cet homme, Asaph, nous permet de voir l'anatomie de son cœur. Il écrit ce psaume d'une façon à nous permettre de lire ses pensées dans les profondeurs de son cœur. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Je ne vous demande pas de vous promener avec des mouchoirs pour essuyer vos larmes et montrer vos chagrins à tout le monde. Mais sommes-nous prêts à dévoiler notre dépendance de Dieu? Est-ce que nous montrons aussi que nous sommes autant faibles, que nous avons besoin de Dieu? Ou nous montrons une certaine façon d'indépendance? Montrer que je suis faible et que lui est fort. N'oublions pas les béatitudes qui disent « Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Certes, nous ne pouvons pas raconter nos chagrins et nos fardeaux à tout ce que nous rencontrons. Mais nous n'avons pas besoin de cacher et nous balader avec un masque arborant un beau sourire. En 2 Corinthiens 12, nous lisons, « Il m'a dit, c'est Paul qui dit du Seigneur, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse de Christ. Dans la faiblesse, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Que Christ se glorifie dans nos faiblesses. Que Christ se glorifie dans mes faiblesses. Quand le Seigneur Jésus a guéri l'homme malade, malade de 38 ans. Il demande à cet homme de prendre son lit et de marcher. Et l'homme marche aussitôt avec son lit. Et on devrait demander pourquoi avec son lit. Il était guéri. Il aurait pu partir sans son lit, en laissant son lit. Mais cet homme, le Seigneur Jésus l'a commandé de marcher avec son lit, prendre son lit et marcher. Oui, parfois nous devrions laisser les cicatrices, nos cicatrices, témoigner de la bonté de Dieu dans notre vie. C'est lui qui témoigne qu'il était malade, il était couché, alité pendant 38 ans. Il n'y avait personne pour le guérir, il n'y avait personne pour l'amener vers la piscine. Oui, il devrait porter son lit de 38 ans. Oui, parfois nous devrions laisser les cicatrices témoigner de la bonté de Dieu dans notre vie. Et pourquoi cacher? Jésus n'a jamais caché ses cicatrices. Il apparaîtra un jour comme l'agneau immolé. Revenons vers le premier verset de ce psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël. Dans le premier verset, cet homme Asaph, il dit que oui, Dieu est bon pour Israël. C'est la parole de celui qui connaît Dieu. C'est un enfant de Dieu. Seulement celui qui a goûté le Seigneur peut dire que Dieu est bon pour son peuple. C'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Tout le monde peut donner un avis sur n'importe quelle chose, mais il fallait goûter et savourer pour dire que Dieu est bon. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici, quand même, il y a des personnes ici qui connaissent M. et Mme Klein. Il y a beaucoup, longtemps, s'est passé. Donc, Mme Klein, elle était en train de j'étais en train de parler avec elle. Elle m'a parlé d'un fruit, Reine-Claude, je ne connaissais pas. Elle m'a dit, vous ne connaissez pas la Reine-Claude? Non, je ne connais pas la Reine-Claude. Elle a dit, non, c'est vert, c'est très sucré, c'est rond, mais je n'arrivais pas à comprendre. Elle a beau de me décrire pendant 10 minutes. Elle a dit, mais bon, je vous ramène ce fruit puisque vous pouvez goûter. Et la semaine après, elle m'a amené dans un bocal la Reine-Claude. J'ai goûté, je sais que c'est bon. Si on n'a pas goûté la bonté de Dieu, on ne peut pas savoir que Dieu est vraiment bon. Et cet homme, Asaph, il constate ici, oui, Dieu est bon pour son peuple, pour Israël. C'est la parole de celui qui connaît Dieu. Pour ceux qui ont le cœur pur, la deuxième partie de ce premier verset, pour ceux qui ont le cœur pur, c'est la parole de celui qui marche dans la droiture, d'un soldat qui combat pour garder son cœur pur. Regardez le verset 13, ce qu'il dit, Asaph, « J'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence de celui qui aime la sainteté de Dieu et pratique la sainteté tous les jours de sa vie. » Donc cet homme, il avait décidé de vivre dans la sainteté pour le Dieu trois fois saint. Oui, Asaph commence ce psaume avec cette constatation que Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Pour comprendre la sainteté de Dieu, nous devrions pratiquer la sainteté. Comme dans le psaume, on lit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Nous voyons ta lumière. Et si Dieu ne révèle pas, on ne peut pas la connaître. On a besoin de la lumière de Dieu pour voir sa lumière. Continuons notre lecture de ce psaume de versets 2 à 12. Le verset 2 à 12. Nous avons déjà lu. Donc, Vous allez remarquer que le psalmiste pose plein de questions dans ce passage. Il demande pourquoi. Je pense que nous allons tous être d'accord avec lui, car nous rencontrons les pareilles situations dans nos vies et nous avons peut-être les mêmes questions. Regardez dans le verset 2, verset 8, « Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. » Mais pourquoi? « Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est changé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil, le serre de collier, la violence et le vêtement de les enveloppent. L'iniquité sort de leur entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment, et il dit, comment Dieu saurait-il, comment les trésors connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Est-ce que vous avez jamais rencontré une telle expérience dans votre vie? Nous vivons tous dans le monde, entourés par les gens, du monde, et on demande pourquoi. Pourquoi moi je devrais souffrir? Pourquoi les gens qui ne sont même pas la pensée de Dieu devraient se réjouir dans ce monde? On trouve beaucoup de choses injustes. Les bébés qui ont des cancers, des enfants qui sont nés handicapés, dans certaines parties du monde, il y a l'abondance de nourriture. Par contre, dans les autres parties, ils devraient marcher des kilomètres pour avoir un pot d'eau. On demande pourquoi. La dernière fois que j'ai visité mon oncle et ma tante, âgés en Inde, ils ne sont plus là, qui étaient des enfants de Dieu, ma tante m'a posé une question pertinente. Il habitait dans une localité hindoue, et mon oncle avait un problème de santé qui l'obligeait à porter son équipement médical sur lui, ce qui était en effet très humiliant. Elle exprimait son incompréhension par rapport à cette situation où Dieu permettait à son enfant de souffrir et d'être humilié aux yeux de tous ses voisins hindous et aussi des gens qu'il ne connaissait même pas. Je ne savais pas. Même si je savais pourquoi, je n'ai pas pu leur répondre. Et tous les gens du monde autour d'eux, ils vivaient avec une bonne santé, comparativement, mais ils devraient porter son honte. Si vous êtes comme moi ou comme Asaph, le psalmiste, nous avons tous ce type de questions. Dieu est-il injuste? Il y a seulement quelques mois, une famille missionnaire américaine débarque au Cameroun. Et deux semaines après, le père de famille, Charles Vesco, est assassiné. Un balle tué cet homme. Sa femme et ses 8 enfants retournent aux États-Unis. Pourquoi Dieu permet-il un tel drame à ses serviteurs? La situation paradoxale et les questions qui s'élèvent sont innombrables. Pourquoi? Il y a quelques semaines, durant l'étude biblique du mardi, nous avons étudié le psaume 1 avec le frère Albert Zandri. À première vue, les deux psaumes me paraissaient contradictoires. Le premier psaume, il dit que heureux l'homme Erau l'homme qui marche, l'heureux l'homme qui ne s'assied pas, qui n'associe pas avec les méchants. Mais dans ce psaume, on trouve juste le contraire. Même si quelqu'un qui veut marcher droit, qui veut servir le Seigneur, il est découragé par rapport à la vie des autres qui mènent autour de lui. Vous savez, c'est le moment de faire le jardin. La mauvaise herbe pousse plus vite que les bonnes herbes. Ils n'ont pas besoin d'engrais, ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit, mais ils poussent bien. Bien souvent, quand je lis le psaume, j'ai une image dans la tête, je regarde. Le psalmiste, le roi David, toujours avec son harpe, et seul avec son javelin, avec son javelot. Oui. Avec son javelot. Et ça, c'est l'image. L'enfant de Dieu, il devrait toujours louer le Seigneur pour sa bonté et pour sa miséricorde et sa grâce. Donc, ici, nous voyons le problème quand on peut diviser en quatre parties. Le verset 2 à 12, nous voyons le problème que le psalmiste il rencontre. Et le verset 13 à 16, nous voyons la difficulté pour comprendre le problème même. Et le problème, après, il faut comprendre le problème. Il a mal à comprendre ce problème. Et après le verset 17 jusqu'à 22, nous voyons la réponse. Le 22 à 28, nous voyons la bénédiction d'être un enfant de Dieu. Donc, quand il voit pourquoi il dit que le verset 2, « Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser. » Il déclare qu'il est en train de se glisser, en train de se tomber. Mais pourquoi? Regardez le verset 3, « Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. » Il y a quelque chose de curieux, mais nous faisons aussi. Regardez un enfant de Dieu qui porte envie aux non-croyants, aux gens du monde. Avec qui nous devrions nous comparer? Nous sommes appelés pour regarder le Seigneur, n'est-ce pas? Mais nous avons la tendance de regarder autour de nous, souvent. Nous nous comparons notre vie avec des autres. Mais malheureusement, parfois, les enfants de Dieu, ils portent leur attention à leurs voisins, à leurs amis mondains, ou la famille, qui ne sont pas des croyants. Ils demandent pourquoi je ne suis pas comme eux. Pourquoi ils sont plus heureux que moi. Et donc, il dit que je portais envie aux insensés. Un enfant de Dieu devrait pas être un insensé. Il est averti par la parole de Dieu. Mais il porte envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort et leur corps est changé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Verset 5, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Donc ils voient que il sait très bien que l'homme qui est né dans un monde de péché, il a des souffrances, mais il pense que des méchants, ils ne sont même pas à la part avec la souffrance humaine. ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence et les vêtements qui les enveloppent. L'iniquité sort de leur entraille, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Ils défient même Dieu. Avec leurs paroles, ils défient même Dieu. Et ils défient toute la humanité. Parce que ils n'ont pas de besoins. Ils sont comblés dans leur vie. Mais quand vous voyez qu'Asaph, ils sont tout seuls, et ils posent la question, mais pourquoi c'est ainsi? Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment, et il dit, comment Dieu serait-il? Comment le Très-Haut connaître-t-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Donc, Asaph, il est dans l'incompréhension quand il regarde le monde autour de lui, mais il porte son problème, je pense qu'il porte envie aux gens du monde. Regardez Romains chapitre 1. Porter envie, est-ce que c'est un péché? Romains chapitre 1, verset 28. Romains chapitre 1, verset 28 à 31. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impieux, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils l'approuvent, ceux qui les font. Donc, curieusement, ce péché d'envie, il est là aussi dans la liste. Mais quand nous lisons, souvent nous exemptons nous-mêmes de cette liste. Ça parle de pécheur, le pécheur terrible. Eh bien, mon nom, il n'est pas dans cette liste de pécheurs. Mais on trouve ici plein d'envie. Maintenant, il y a la question, est-ce que nous portons envie aux gens incrédules de leur richesse, de leur façon de vivre? Mais oui, le monde peut nous polluer. Il peut nous attirer par ces choses. Et regardez Proverbe 14, 30. Proverbe 14, 30. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Donc comment un enfant de Dieu il peut être heureux quand il peut porter envie aux autres? Et quand on commence à regarder ailleurs, on enlève nos regards de Dieu, c'est l'envie, il entre dans notre vie. Et ça, c'est un signe de que nous sommes en train de nous sommes en train de glisser. Nous sommes en train de partir en arrière. Ça, c'est le signe. Donc, le moment où nous arrêtons de regarder Dieu, quand on commence à regarder le monde, l'envie, il entre dans notre vie et on commence à aller en arrière, marcher en arrière. Et la difficulté, deuxièmement, la difficulté pour comprendre le problème. Et le verset 13, « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que je lavais mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » Là, le bon sens commence à venir. Mais quand même, il dit que c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Est-ce que nous regrettons d'avoir suivi Jésus-Christ? Est-ce que nous regrettons d'avoir purifié notre vie, d'avoir purifié notre cœur? Est-ce que c'était en vain? Est-ce que notre marche avec le Seigneur et notre marche digne avec le Seigneur est en vain? Et tout ce que nous faisons, est-ce que c'est en vain? Imaginez un beau matin, nous levons, on a le cœur qui plonge, nous déprimons en regardant les choses qui se passent autour de nous. Et pourquoi tout cela? Et pourquoi je devrais faire tout cela? Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Et après vient la réponse. Le verset 17. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur la voie glissante. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? Et un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par la faim soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur est aigrissé, et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme des bêtes. Le moment que nous comprenons que nous sommes stupides, c'est là que l'intelligence elle pénètre dans notre cœur. Et bien souvent, ce n'est pas le cas. On pense que nous sommes intelligents, même devant le Seigneur. Et ici, le psalmiste dit que le verset 17, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Si vous demandez pourquoi nous devrions assister au culte, pourquoi nous devrions assister le rassemblement de saints tous les dimanches, eh bien, aussi souvent que possible, le mardi ou des autres réunions, mes chers frères et sœurs, nous avons besoin de la communion fraternelle. Sans ça, si nous allons tenir tout seuls comme Asaf, nous sommes dans un terrain glissant. Et nous ne sommes pas conscients de ça, mais bien souvent c'est le cas. À cet homme, il aurait pu partir avec les méchants, parce que Dieu l'a placé sur la voie glissante, hein, verset 18. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Mais dans le verset 2, il dit, toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur un point de glisser. Il n'était pas loin. Il n'était pas loin non plus. Et c'est pourquoi nous avons besoin de la communion fraternelle. Et si notre frère ou sœur est en train de glisser, ils sont en train de glisser, on peut donner la main pour le tenir. Et quand je glisse, il y a un autre qui vient pour me secourir, pour me donner une parole d'encouragement. Et tout seul, nous ne pourrons pas résister l'ennemi. Le Seigneur, il a conçu le corps de Christ d'une telle manière que nous soyons membres de son corps. Nous devrions respecter cela. Et ça, c'est la volonté de Dieu que nous soyons en communion avec un les autres. Et le verset 21, lorsque mon cœur aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, l'aigrissement, parfois quand on voit les choses injustes, on rumine en nous-mêmes et en regardant des méchants qui fleurissent et notre état, on peut faire pousser cette herbe d'aigrissement dans notre cœur. Et ça prend d'élan. Après, ça peut devenir le déprime. Je pense que Asaph, il était au point de déprimer ici quand il a chanté ce cantique. Mais bien heureusement, ça ne termine pas ainsi. Verset 22, c'est la bénédiction d'être d'un enfant de Dieu. Là, il comprend. Verset 22, « J'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme des bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Cependant, je suis toujours avec toi, verset 23, tu m'as saisi la main droite. Le Seigneur, par sa grâce, même parfois nous, volontairement, nous plaçons dans cette situation, nous savons très bien que nous ne devrions pas regarder le monde. Nous avons plein d'exemples dans la parole de Dieu que nous devrions regarder le Seigneur, fixer nos regards vers le Seigneur, mais parfois ça nous arrive que nous regardons le monde. Et c'est la grâce de Dieu qu'il nous saisisse par la main droite. C'est sa grâce. Tu me conduiras par ton conseil. Le Seigneur, il prend notre main, il nous conseille. Il nous conseille. Puis tu me recevras dans la gloire à ce qu'il fait avec son enfant. Le Seigneur fait de belles choses avec son enfant. Et là, il dit, dans le verset 25, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Parfois, le Seigneur nous laisse voir le monde, comment le monde il va, il est en train de périr, pour comprendre le trésor qu'on a en Dieu. Et c'est là, il dit que quel autre ai-je au ciel que toi? Même dans le ciel, mais si le Seigneur n'est pas là, le ciel il n'est pas beau. On ne pourrait pas espérer à quelque chose dans le ciel. Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Est-ce que nous pourrons dire ce verset? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Peut-être pas. Peut-être pas. Mais nous devrions repentir de beaucoup de choses que le plaisir que nous avons dans les choses mondaines, l'envie que nous pouvons porter aux choses mondaines, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Je pense à Job. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer plus que Dieu? On a Dieu à notre côté. On a Dieu pour nous. Qu'est-ce qu'autre chose qu'on peut désirer? Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Est-ce que nous pensons à ce verset chaque fois? Nous avons une opportunité pour approcher de Dieu. Et Dieu dit, approchez de moi, j'approcherai de vous. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Mais d'abord, il faut demeurer en Dieu pour raconter toutes ses merveilles. Et là, premièrement, cet homme, Asaph, dans cet psaume 73, il a regardé en arrière. Et quand il a regardé en arrière, il était déprimé quand il a vu comment le monde il vit. Mais il a compris une chose, Dieu est toujours juste dans ses voies et dans tout ce qu'il fait. Dieu est toujours juste dans ses voies et dans tout ce qu'il fait. Même si je ne comprends pas exactement ce que Dieu est en train de faire. Et parfois, oui, on est dans l'incompréhension. On ne comprend pas exactement ce que Dieu est en train de faire. On ne comprend pas pourquoi c'est ainsi. Mais on devrait être sûr d'une chose, Dieu, il est parfaitement juste dans toutes ses voies et dans tout ce qu'il fait. Et deuxièmement, il a regardé autour. Et il dit dans le verset 3, « Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Ce qu'il ne fallait pas. Quand on regarde autour de nous, nous n'avons pas de choses en commun avec nos voisins. Nous sommes une créature unique, créée par Dieu, dans son image. Et Dieu, il a un plan pour la vie de chacun d'entre nous. Et Dieu l'accomplira ce qu'il a commencé. Et après, il a fait une autre chose, il a regardé au-dedans, en lui-même. Regardez les versets 13 et 14. « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. » Et finalement, il commence à regarder en haut. Le verset 16, 17. « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants, nous ne pouvons pas trouver sens à nos vies sauf si nous tournons nos regards en haut. » Mais si nous sommes en train de regarder les gens autour de nous, la situation autour de nous, et nous ne pourrons pas trouver le sens à la vie. Et beaucoup de gens du monde, ils n'ont pas le sens de la vie. Ils disent que non, il n'y a pas de sens à la vie. La vie n'a aucun sens. On est né et on meurt un jour. Mais nous n'avons pas ce regard. Et quand nous regardons en haut, nous avons on peut trouver le sens à notre vie. Regardez Hébreux 12, 2. là, à la hauteur de Hébreu, il dit, Hébreu 12, 2, « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'assit à la droite du trône de Dieu. » Et notre grand exemple, c'est Jésus-Christ. Il n'a pas regardé autre chose. Il était jusqu'à la croix, ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et le mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. La joie qui lui était réservée. Nous avons la même joie qui est réservée pour nous. Nous avons Dieu et sa présence. Nous avons le ciel. Et une pensée pratique, verset 26, « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Ça, on peut dire avec le psalmiste, « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Et en allant, en regardant devant, et le verset 28, qui dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Et nous ne pouvons pas bouger en avant dans la foi si nous n'approchons pas de lui. Nous devrions approcher de Dieu. Et nous ne pourrons pas partager l'évangile, la bonne nouvelle, si notre vie elle-même n'est pas une bonne nouvelle. Et pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter tout à ses œuvres. Donc, c'est ça le psaume. Il veut nous enseigner. Quand cet homme, il regarde autour de lui, quand il regarde le monde, sa vie était en difficulté. Mais quand il commence à regarder Dieu, il a trouvé l'espérance en Dieu. Et voilà, Dieu l'a soulevé, il a rétabli cet homme. Et donc, c'est un psaume qui est très sincère, très honnête. Ça, c'est la beauté de psaume. On peut appliquer à notre vie personnelle, pour nous-mêmes. Ce que le psalmiste a ressenti, nous ressent la même chose. Et car nous sommes comme eux, dans la chair et l'eau, c'est le sang, nous sommes faits avec la même matière comme ces hommes de Dieu, qui ont connu les difficultés dans la vie et qui sont vaincus par la main de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne le courage et le cœur pour regarder en lui, fixer nos regards en lui. Prions.